Élève-toi
avec les enfants. Radio Vassivière. Une émission de Émilie, ma maman.
Bonjour, bienvenue pour cette émission de Élève-toi avec les enfants. Une émission pour tous ceux qui s'occupent d'enfants ou qui se préparent à le faire, à la maison ou en milieu professionnel, et qui souhaitent donner le meilleur d'eux-mêmes auprès des enfants, afin qu'ils apportent eux-mêmes le meilleur d'eux-mêmes dans ce monde. Bonjour, bienvenue pour cette 44e émission de
Élève-toi
avec les enfants.
Ici Émilie au studio de Feltin. Alors, je vous rappelle comme les fois précédentes que plein des émissions, presque toutes, sont sur le site radiovassivière.com, onglet émissions, Élève-toi avec les enfants. Vous pouvez tout écouter en replay, vous pouvez même le podcaster, comme on dit. La semaine dernière, je vous ai posé une question. Cette question, c'est... Et là, si vous aviez la possibilité de venir, d'apparaître dans la vie de l'adolescent, l'adolescente que vous avez été, si cela était possible pendant 20 secondes, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous lui diriez à cet adolescent que vous avez été? Et j'attends vos réponses. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos réponses à emily.roudier23@gmail.com et je vous en remercierai grandement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir à de la parentalité. Voilà, les émissions précédentes étaient pas mal sur l'école, sur les apprentissages. Et là aujourd'hui, j'ai envie de revenir à mon livre préféré qui s'appelle « Écoute », écrit par Patty Whipfler et Tosha Shore, qui se trouve aux éditions J.C. Lattès, qui est juste une merveille, un trésor. S'il n'y avait qu'un livre à avoir, ça serait bien celui-ci. C'est un petit format, et là je suis en train de regarder, il y a presque 600 pages en fait, hein, c'est quand même un gros livre, parce que ce que j'aime ici, voilà, c'est qu'il y a à la fois tout ce qu'il faut pour comprendre les connaissances, et il y a plein d'exemples qui vont permettre vraiment de rendre vivant tout ce qui est proposé. Hein. Donc le sous-titre « Les outils indispensables pour se connecter à son enfant ». Et si vous m'écoutez en direct, c'est que vous n'êtes pas loin de la Creuse. Et la BDP de la Creuse, la Bibliothèque départementale de Pré, a acheté ce livre. Il est actuellement, normalement, à la bibliothèque de Feltin. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lire le chapitre 5 qui s'appelle « Interposer une limite ». Donc, je rappelle déjà que... Il y a 5 outils principaux dans cette, c'est pas une méthode, c'est dans cette approche, on va dire, plutôt, qui s'appelle hand in hand, main dans la main, grandir main dans la main. Et ces 5 outils sont le temps spécial ou temps particulier, le je écoute, le rester écouté, interposer une limite, et le cinquième, ce sont les partenariats d'écoute. Dans plein des 43 premières émissions, j'ai parlé de ces outils-là. Il y a même une émission avec Chloé Saint-Guilhem, qui fait partie des 3, il me semble qu'elles sont 3 formatrices Hand in Hand en France. Alors moi, je précise que je vous transmets tout cela, parce que c'est absolument merveilleux, je trouve. Mais je ne suis pas une de ces formatrices. Hein. Je l'ai juste fait, moi, le cycle de base avec Chloé Saint-Guilhem. Donc nous avons fait ensemble une émission sur le partenariat d'écoute. Ensuite, ce que je souhaite repréciser, c'est que tout ceci a été écrit à partir de l'expérience. Patty Whipfler travaillait dans les crèches, voilà. C'est là qu'elle s'est mise, et puis elle est maman aussi, c'est là qu'elle s'est mise à chercher à comprendre l'enfant et à chercher ce qui était de plus pratique, de plus simple à mettre en œuvre auprès d'eux, par tout le monde, hein, que ce soit en famille ou bien en milieu professionnel, dans les crèches comme à l'été, à l'école, à la garderie, dans les centres de loisirs, partout. Et donc tout ce livre est le fruit de son expérience et de ses recherches. Et elle n'a pas travaillé seule, hein, bien sûr, elle a travaillé avec plein d'autres parents. J'ai écouté, d'ailleurs je mettrai peut-être le lien, je ne sais pas si j'y arriverai, une interview d'Isabelle Fillosa, parce que là, si on prend le livre chez J.C. Lattès, on voit que c'est écrit en introduction, Isabelle Fillosa présente. Alors, je pense que ça fait bien vendre. Elle dit elle-même, Isabelle Fillosa, que c'est là qu'elle a trouvé sa source d'inspiration. Hein, voilà. Donc, interposer une limite. Interposer une limite, ça va se passer, c'est un des 5 outils. Et il n'y a pas de recette magique pour savoir si c'est celle-là la bonne à utiliser là tout de suite maintenant. Ça dépend énormément du contexte, de l'état dans lequel est l'enfant, de l'état dans lequel nous sommes, si nous sommes chez nous, si nous sommes à l'extérieur, si nous avons un rendez-vous juste après. Bien sûr, voilà, après il y a des outils et c'est à chacun de sentir, de discerner quel est l'outil indispensable à ce moment-là. Mais tout ce que je veux dire en préambule avant de lire ce chapitre, c'est que la condition avant d'interposer une limite à un enfant, c'est d'être en connexion avec lui. Il n'y a pas de limites qui peuvent être posées de manière juste et constructive si nous sommes dans un sentiment d'agressivité, de colère, de haine, d'opposition avec l'enfant. Voilà. Allez, c'est parti. Chapitre 5, interposer une limite. Les enfants ont besoin de règles. Elles assurent leur sécurité, leur indiquent comment nouer des relations respectueuses et les guident lors de leurs jeux et apprentissages. Sans limites bien choisies à leur envie farouche, nous pouvons tous imaginer l'état de leur santé dentaire, hygiène, alimentation, sommeil, le sol de leur chambre et la solidité de leurs amitiés. Parfois, non ou stop sont les mots les plus gentils. Souvent, ce sont des mots absolument nécessaires. Judicieusement utilisés, ils font avancer l'enfant et nous évitent l'épuisement. Pour mettre les points sur les i, and in hand n'est pas une approche permissive de la parentalité. Elle n'est pas autoritaire non plus. Elle est respectueuse des enfants et des parents. Et oui, nous n'avons pas le choix entre une parentalité permissive et une parentalité autoritaire. Il existe une parentalité consciente et respectueuse, celle qui est décrite dans ce livre. Et oui, là c'est moi qui fais une petite pause, les enfants ont besoin de règles. Hein. On tombe dans le panneau. Alors je vois qu'il y a deux grands types de panneaux. On est dans le panneau un petit peu utopique, nouvel âge, nouveau monde, et on se dit que les enfants, ils ont besoin avant tout de la liberté. Et on en oublie les règles, et on se dit que nous-mêmes, c'est tellement mieux un monde sans règles, hein, sans discipline, et on en vient même fâché avec les mots discipline, rigueur. Et oui, quand c'est n'importe quoi qu'on nous demande, évidemment, on en vient là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout balancer. Évidemment, oui, il y a besoin de règles pour avancer. Donc, ce n'est pas la liberté avant tout qui va aider votre enfant à aller vivre dans un monde meilleur et à faire émerger un nouveau monde. Non, 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 non. L'autre chose que je vois, eh bien, c'est des parents qui ne sont pas du tout là-dedans, hein, mais qui n'ont pas à l'intérieur d'eux-mêmes suffisamment de règles, de rigueur et de discipline, et qui sont incapables, du coup, de remettre à leurs enfants. Voilà. Mais nous en sommes où nous en sommes, ce qui compte, c'est d'avoir envie d'avancer. Il y a des moments plus fréquents, que nous le croyons, où nous expliquons une règle ou une consigne à l'enfant et où tout se passe bien. Les moments qui nous manquent sont ceux où son comportement nous place en fâcheuse position. L'enfant sort de ses gonds et alors même que nous voulons le traiter avec respect, notre intervention timide n'arrange rien. Donc nous lançons un avertissement. Comme l'enfant ne peut pas penser, il ne peut pas s'y conformer. Et oui, l'enfant qui est déjà pris dans sa tempête émotionnelle, surtout avant 6 ans, ne peut plus penser. Il est complètement emporté. Très vite, nous nous emportons. Et oui, malheureusement, c'est ça, l'enfant s'emporte et on s'emporte aussi. Stop, stop, stop. Il se sent attaqué, nous sommes en colère et nous retenons notre main, mais pas nos cris. Ou nous l'isolons dans sa chambre et gardons nos distances un moment jusqu'à ce que nous soyons tous les deux calmés. Heureusement, tu peux t'y prendre autrement. Tu découvriras dans ce chapitre l'outil interposer une limite qui associe ton stop à l'écoute de ton enfant. Il s'agit d'une façon de limiter ses débordements tout en lui fournissant l'amour dont il a besoin avant que tu n'atteignes ton point critique d'ébullition. Après ton non ou stop, si tu écoutes l'enfant, en fait, tu l'aides peu à peu à acquérir du discernement. Alors, petite chose. à déconstruire. Dire non, dire stop, ce n'est pas être méchant. Et on n'est pas obligé de dire non, stop, ah, non, non, on n'est pas obligé de se mettre en colère pour dire non. Un non et un stop peut être dit avec tout l'amour du monde, toute la gentillesse du monde, mais aussi toute la fermeté et la clarté du monde en même temps. Ce n'est pas du tout indissociable, au contraire, ça va très 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 bien ensemble. Tu travailles avec lui à guérir l'émotion douloureuse qui le gênait. Tes interventions deviennent des invitations à exprimer l'émotion qui l'a fait dérailler. Le lendemain, il déraillera moins facilement parce qu'il sera libéré de ses tensions. Quand les parents interposent une limite, ils ont la grande surprise de constater une plus grande proximité affective avec leur enfant. Jumeler limite et écoute n'est pas gnangnan. Ce n'est pas abdiquer devant ton enfant, il détestera être contraint tout autant que d'habitude. Mais parce que tu écoutes comment il se sent, sa haine s'évacue. Parce que tu l'écoutes, son point de vue se réajuste. Il comprend que même si tu as dit non, tu prends soin de lui. C'est tout ce dont il a besoin. En quoi l'outil interposer une limite est-il spécial ? La plupart des approches de la discipline posent l'hypothèse que l'adulte a l'intelligence et le discernement et que l'enfant doit être éduqué. L'enfant y est vu comme un être essentiellement sauvage. Son boulot est d'obéir rapidement, le boulot du parent est de réagir à tout comportement non civilisé en infligeant des conséquences négatives. De nombreux parents modernes ont une perspective un petit peu plus généreuse sur la nature et l'intelligence de leurs enfants. Malgré tout, ils se retrouvaient aussi à court de patience. Quand nos enfants arrivent au collège, nous sommes tous usés. À l'orée de la difficile étape de l'adolescence, nos milliers de batailles pour telle ou telle limite ont sapé notre énergie, sans aucun progrès marqué à mettre dans la balance de nos efforts. Il est temps de changer nos hypothèses sur l'intelligence de nos enfants. Si nous partons du principe qu'ils ont un sens inné de l'amour, un fort désir de coopérer et un sens aigu de la justice, nous nous épargnons une quantité pharaonique de travail et de confusion. Nos enfants savent faire la différence entre ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Souvent, ils détectent avant nous notre ton froid ou irrité. Leurs comportements non coopératifs ou non affectueux ne sont pas dus à leur nature non civilisée. Ils naissent de leur sentiment d'être déconnectés de notre amour et envahis d'émotions douloureuses. Quand tu pars de cette hypothèse plus généreuse, une grande partie du travail disparaît. Au lieu d'enseigner à ton enfant ce qui est OK ou ce qui ne l'est pas, de t'inquiéter qu'il ne comprenne pas, tu prêtes davantage attention à la relation entre vous deux. En te concentrant sur ce qui nourrit votre lien, tu aides ton enfant à utiliser son intelligence plus souvent. Quand il ne peut pas coopérer, tu interposes une limite. Tu interviens, puis tu écoutes ses émotions. Tu lui permets aussi de reprendre ses esprits, de se détendre et d'être de nouveau en harmonie avec toi. Pendant que tes enfants jouent, combien de temps passes-tu à chronométrer leur tour de rôle ou à monter tout un système de sanctions s'ils ne partagent pas leurs jouets ? Et si tu partais plutôt de l'hypothèse qu'ils savent comment s'amuser ensemble ? Par exemple, quand l'un attrape le jouet préféré de l'autre, tu peux simplement garder la main sur l'objet convoité et dire « Elle l'avait !» Tu vas devoir le lui rendre. Ensuite, ta main toujours sur l'objet, tu laisses ton enfant exploser, crier que c'est ton tour de jouer avec, que t'es vraiment bête. La seule chose à dire, tandis que l'enfant pleure à gros sanglots ou pique une bonne crise de rage et « Oh, je sais que tu le veux vraiment, mais tu vas le lui rendre. » Une fois que tu auras écouté son émotion, il retrouvera ses esprits, rendra le jouet et jouera avec davantage de souplesse. Alors là, je fais une petite parenthèse. Il y avait une information nécessaire et que je répète régulièrement, mais continuons de la répéter. Même moi, je tombe dans ce panneau, tout le monde, enfin même moi, évidemment. Je suis juste là parce que j'ai envie de vous parler de tout ça, mais ça ne veut pas du tout dire que je fais les choses parfaitement. En tout cas, je tends à m'améliorer. On parle trop. On parle trop, qu'est-ce qu'on rate comme occasion de se taire ? Et on mentalise trop. Voilà, c'est une mentalisation. Les enfants, ça rend malade, en fait. C'est même les adultes, ça rend tout le monde malade, cette surmentalisation. Non, on ne va pas... Chut. Arrêtons de demander son avis à un enfant de 2 ans sur ce qu'il préfère faire à tel endroit. Ou, je ne dis pas que c'est jamais le cas, mais on vient trop les questionner, on vient trop faire appel à leur raison. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas ça leur langage. Je reprends la lecture. Sermon, jugement, morale, négociation, diplomatie, tout cela est inutile. Aucune coercition d'aucune sorte n'est nécessaire ni utile. Tu ne le forces à rien. Tu l'empêches seulement et simplement de poursuivre son action et tu écoutes jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau penser. Il y parviendra. Cela demande de la patience, mais tu fais l'économie de leçons de morale stériles et d'une vaine inquiétude. Tes enfants sont de chouettes personnes, ils s'apprécient l'un l'autre. Se nettoyer des tensions émotionnelles prend un peu de temps. Quand elles auront disparu, ils sauront comment faire. Jumeler une intervention concrète avec une écoute attentive crée une passerelle vers de meilleurs moments et des enfants plus heureux. Quand le comportement de ton enfant déraille, cela te signale que son génie est hors ligne. La chose la plus gentille que tu puisses faire pour lui est de stopper son comportement aberrant et de te mettre en mode écoute. La tension émotionnelle jaillira hors de lui, ton attention se déversera en lui et tout ira bien de nouveau. Et oui, y a un truc à la mode aussi où on pense qu'il faut écouter ce que les enfants ils disent qu'ils veulent. Hein. Sauf que s'ils sont off track, out of order, s'ils sont déconnectés, non, ce qu'ils disent n'a absolument rien à voir avec ce dont ils ont besoin. Hein. Ils n'ont déjà pas la sagesse et la maturité pour le savoir. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être à l'écoute de leur goût, de leur sensibilité, de leur personnalité, bien sûr. Mais c'est juste, voilà, ils n'ont pas l'expérience que nous, adultes, nous avons. Hein. Il est important que nous assumions ceci. Et également, s'il est déjà pris dans une tempête émotionnelle, alors là... Il ne peut pas rien savoir de ce qui est bon pour lui, évidemment. Je continue. Si nous échafaudons un dispositif de récompense et de punition avec nos enfants, ils finissent par comprendre que nous manipulons leur comportement et ils apprennent à exploiter les systèmes mis en place. Lorsque les sanctions tombent fréquemment, ils s'immunisent contre elles, à moins qu'ils ne se rebellent ouvertement. Dire stop, puis s'approcher de l'enfant pour écouter ses émotions, ne fait appel ni à la sévérité, ni à la corruption, ni à la menace. Cette démarche invoque ce qu'il y a de meilleur en l'enfant et en nous. De temps en temps, quand ils sont au bout du rouleau, je sais bien que les parents, utilisant les outils Indian, proposent aussi des récompenses où on voit leurs enfants dans leur chambre. Mais quand ils ont toute leur tête, ils avancent en trois temps. 1. Se brancher sur l'enfant. 2. Interposer une limite. 3. Écouter. Ils le font parce que c'est efficace. Chez Indian, les règles, limites et interdits ont une dernière spécificité. L'approche encourage les parents à intervenir en usant d'un ton et d'une énergie ludique. L'humour désamorce les luttes de pouvoir, fait plaisir à l'enfant et le rassure sur l'idée que nous l'aimons même après nous être opposés à son désir. Tu en sauras plus dans le chapitre 6, pardon, qui s'appelle « Le jeu écoute ». Allez, une petite pause et...
Musique maintenant.
Nous allons écouter... Vangelis, 1492, La conquête du paradis. Thank you.
Élève-toi
avec les enfants.
Vous êtes bien à l'écoute de Élève-toi avec les enfants sur
Radio Vassivière. Une émission de Émilie, ma maman.
Et vous l'aurez peut-être remarqué, il y a eu un changement d'horaire. Hein. Ce n'est plus à 15h, mais à 16h le samedi pour écouter en direct. Soit parce que vous êtes en Limousin et que vous nous écoutez au bon endroit, soit parce que vous nous écoutez sur Internet. On peut écouter aussi en direct. Hein. On va sur le site radiovassivière.com le samedi à 16h et on peut écouter l'émission à ce moment-là. Voilà, voilà, je suis en train de vous lire ce précieux livre « Écoute » de Patty Whipfler et j'ai choisi aujourd'hui le chapitre « Interposer une limite ». Je vais continuer la lecture et de temps en temps je m'arrête pour commenter. Est-ce que vous avez remarqué commentaire hein? Souvent, à mes élèves, je leur dis « Si tu passais de faire des commentaires à comment se taire, commentaire ». Alors, je vais faire attention que ce soit des commentaires intelligents et nécessaires et utiles. Alors, quand interposer une limite ? Ton enfant te dit très clairement quand il est temps d'intervenir. Si tu ne décodes pas son signal d'alerte, il en renvoie un autre. Si tu ne peux toujours pas y répondre, il changera de signal pour t'en adresser d'autres dont il sait avec certitude qu'ils te pousseront à réagir. Il n'est pas fait pour tolérer un état d'esprit irrationnel. Quand il sent que le lien entre vous est distendu, quand il est en souffrance, il préfère que tu viennes vers lui avec irritation plutôt que tu ne viennes pas du tout. Il a besoin de ton attention à ce point. Tandis que son cerveau rationnel est inondé d'émotions douloureuses, il ne peut pas t'aimer, ni toi, ni qui que ce soit d'autre. Il a oublié que tu étais de son côté. Plus grand-chose n'a de sens pour lui. Dans le même temps, il est parfaitement conscient de ton état émotionnel et de ton ressenti à son égard. Cela le marque profondément. Voici quelques signaux qui précèdent un comportement vraiment difficile appelant l'usage de l'outil interposer une limite. Ils te préviennent que ton enfant se sent coupé de toi. Il ne maintient pas un contact visuel détendu avec toi. Il ne veut pas être touché. Il n'est pas ouvert au changement. Il n'accepte personne dans ses jeux ou alors il ne veut jouer qu'avec certains enfants. Son attention reste bloquée sur ses jouets et il ne se relie à personne. Il veut que les choses se fassent d'une manière particulière. Tout écart le contrarie. Il est mou, ne s'intéresse à rien ou est occupé par une activité répétitive, comme se faire des boucles avec ses cheveux, sucer son pouce ou serrer son doudou. Un enfant qui ne se sent pas en lien ne peut pas penser. Il dispose donc de très peu de flexibilité. Tu peux vouloir sincèrement qu'il fasse les choses différemment, mais tu ne provoquerais rien que protestations et émotions désagréables. À la fin du chapitre 2, j'ai présenté une courte liste de 6 autres alertes comportementales courantes signalant une déconnexion. Par exemple, le biscuit cassé, enfin, se conférer plutôt le biscuit cassé, la sortie gâchée. Bien sûr, comme les enfants sont créatifs, il en existe des centaines d'autres. J'espère que cela te rassure de comprendre que quand ils sortent des rails, les enfants font partout, dans toutes les familles, les mêmes trucs dingues que le tien. Voici un exemple de signal comportemental qui aurait facilement pu être ignoré. Parce qu'il a été correctement décodé et suivi d'action, il a débouché sur une véritable avancée. Une mère et son fils de 3 ans et demi sont venus pour leur première classe Hand in Hand, dédiée à l'outil tant particulier. Cette maman avait des difficultés avec le comportement de plus en plus agressif de son fils. Je les ai accueillis avec un sourire amical et paisible. Au bout d'un moment, l'enfant est entré et a joué un peu avec sa mère, puis est de nouveau sorti. Sa maman lui a demandé de retirer ses chaussures comme tous les autres enfants. Il a enlevé une chaussure et l'a posée, mais il a lancé son autre chaussure dans la salle. Elle a atterri loin des autres personnes présentes. Il n'avait blessé personne, mais l'enfant envoyait un signal. Il avait besoin d'une limite à son débordement. Je lui ai apporté sa chaussure et je me suis agenouillée à côté de lui en lui disant calmement « Je ne peux pas te laisser lancer une chaussure dans la pièce. » Il a explosé en pleurs et s'est mis à hurler. Sa mère s'est assise à côté de lui et il s'est précipité sur ses genoux. À grand renfort de larmes, de gesticulations, de transpiration, il nous a montré à quel point il détestait être là. Il suppliait sa mère de retourner à la maison en boucle. Sa mère connaissait un peu l'outil resté écouté, alors elle a gardé son calme. Elle a écouté et a chuchoté « Non, nous sommes en sécurité ici, je suis avec toi, nous rentrerons quand ça sera terminé. » Il a pleuré longtemps, hors de lui, tellement il voulait partir. Je suis restée à côté d'eux, murmurant moi aussi de temps en temps. « Tu es en sécurité ici, tu rentreras chez toi, c'est sûr, mais pas tout de suite. » tandis qu'il pleurait et transpirait avec toute l'attention de sa maman et la mienne, une autre formatrice assurait la continuité des jeux pour les autres enfants. Peu avant la fin de la séance, il s'est essuyé les larmes, a demandé un verre d'eau, puis a exploré la salle avec sa maman. Ils ont un peu joué avec des coussins. Quand l'heure est arrivée de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit un au revoir chaleureux. Je me suis baissée pour être à son niveau et je lui ai dit que j'avais apprécié le temps passé avec lui. Puis il s'est tourné vers sa maman et lui a déclaré « Maman, maintenant j'ai deux maisons, une chez nous et une autre ici. » D'après sa maman, pendant toute la semaine qui a suivi, son comportement s'est nettement amélioré. En rapportant simplement la chaussure à cet enfant, j'ai ouvert la porte aux tensions douloureuses dont il était prêt à se délester. Il n'avait pas besoin d'être puni. Parce que notre message en retour était clair. Nous avions vu sa difficulté, il a pu nous montrer à quel point il se sentait mal. Il a pleuré abondamment jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau penser. Il a alors compris qu'en fait, il était en sécurité là où il se trouvait. Ensuite, son monde s'est élargi d'une manière merveilleuse. En utilisant ton propre radar à comportement aberrant, tu deviendras une experte ou un expert en décodage des signaux d'alerte de ton enfant, ce qui te permettra d'intervenir avec une limite avant que tu ne te prennes la seconde chaussure sur la tête. Comment écouter ? Interposer une limite, écouter. Tu peux voir ton intervention pour limiter un débordement comme une façon de te rapprocher de ton enfant et non de le punir, de prendre ta revanche ou de prouver que c'est toi la chef. Pour qu'elle soit efficace, il n'est pas nécessaire d'être au top de ta forme, mais cela ne marchera pas si tu es envahi par l'exaspération. Le chapitre 13, se connecter quand tu es au bout du rouleau, te propose quelques stratégies pour ces moments précis quand tu ne peux plus réfléchir. Par expérience, ta meilleure chance d'obtenir des résultats prometteurs face au comportement à problème de ton enfant est d'échanger du temps d'écoute avec un autre parent. Ton enfant a besoin de se libérer de ses tensions émotionnelles pour s'épanouir et tu mérites ce type de soutien toi aussi. J'aime présenter l'intervention face à un débordement comme un enchaînement de trois étapes liées les uns aux autres. Écouter, interposer une limite et écouter à nouveau. Étape 1, écouter et réfléchir. Nous pensons souvent aux limites comme à des moyens de faire respecter les règles. La sagesse conventionnelle dit que, tels des chiots, les enfants ont besoin de leurs parents, que leurs parents soient clairs et cohérents avec eux. Mais les enfants ne sont pas des chiots. Leur intelligence est immense. Au lieu de conditionner le tien à obéir, tu peux t'entraîner toi à te questionner à ses côtés et l'encourager à développer son discernement. Il est bien plus rassurant pour lui d'apprendre auprès d'un parent qui réfléchit sereinement chaque fois qu'un problème se pose et non auprès d'un parent insistant sur le respect des règles quoi qu'il arrive. Ton intelligence de la situation et ton attention affectueuse procurent à ton enfant un sentiment de sécurité. Comme tous les parents, nous avons besoin de définir des règles pour ce qui est important pour nous, comme l'heure du coucher, la propreté, le respect d'autrui. Mais la vie avec des enfants n'est pas une ligne droite et il y aura de temps en temps de bonnes raisons pour que tu dises non à ce qui est d'habitude, c'est oui, et oui à ce qui est d'habitude, est hors cadre. Un peu de souplesse de temps en temps ne transformera pas ton enfant en enfant gâté. La parentalité est plus douce quand nous nous voyons comme les premiers secours qui s'adaptent à chaque situation et non pas comme la police, veillant à la bonne application de règles immuables. Avec cette casquette de premiers secours, tu t'imprégneras des détails de chaque nouvelle situation et tu partageras tes réflexions avec ton enfant. Tu l'initieras ainsi à la pensée critique et tu lui enseigneras à respecter ton point de vue. Si la règle est « pas de dessert pendant la semaine », mais que la voisine sonne à ta porte avec un plateau de cookies sortant du four, peut-être qu'il est ok de dire oui au dessert. Cela ne veut pas dire subitement que c'est cookies à volonté tous les soirs. Tu montres que pour toi, cela fait sens de déguster des cookies chauds ce soir spécifiquement. Donc, pour commencer, il est important d'analyser la situation. Est-ce que la sécurité de quelqu'un est en jeu? Si ce n'est pas le cas, tu peux t'accorder un moment pour décider si oui ou non une limite a du sens. Apprendre à être flexible pendant les crises émotionnelles d'un enfant prend du temps parce que souvent, nous ne faisons pas la différence entre nos propres émotions violentes et celles de l'enfant. Limiter les débordements de ton enfant t'inquiète? Plus tu partageras tes préoccupations avec ton partenaire d'écoute et plus rapidement tu maîtriseras l'outil interposer une limite. Dans un partenariat d'écoute, tu peux expliquer comment, quand tu étais enfant, tes parents recadraient tes comportements, pester contre leurs réactions si jamais petite tu te conduisais comme ton enfant. Chercher à comprendre ta manie obsessionnelle de poser des limites ou à l'inverse pourquoi la seule idée de stopper un débordement t'épouvante. Plus tu exprimeras tes émotions à un partenaire de confiance et plus il sera facile pour toi d'intervenir face à un comportement difficile. Quand le comportement de ton enfant se détraque, il est temps d'arrêter tout, d'écouter et de réfléchir. Tu peux t'agenouiller pour placer tes yeux à sa hauteur et lui montrer ton intérêt. Inutile de gronder, d'aboyer ou de donner un avertissement. Tu peux lui demander pourquoi il hurle ou pourquoi il doit absolument mettre le t-shirt bleu qui est au linge sale. Parfois, nous croyons que l'enfant déraille alors qu'il est tout à fait clair dans sa tête. L'écouter d'abord lui offre le bénéfice du doute. Très rapidement, tu parviendras à analyser et à comprendre ce qui se passe. Bon, ben voilà, je m'arrête là. Bon, ben, la semaine prochaine, je continue ce chapitre parce que ben, c'est riche. Et en même temps que je vous le lis, ben, ça me fait apparaître plein de petites choses que je vais améliorer là, dès aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de...
Radio Vassivière.
C'était la 43e émission.
Élève-toi
avec les enfants.
J'espère que ça vous aide. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien. Je rappelle la question. Si pendant 20 secondes, vous avez possibilité de retourner auprès de l'adolescent, adolescente que vous avez été, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous feriez? Allez, envoyez-moi vos réponses, mon mail est sous cette émission à retrouver sur radiovassivière.com. Je vous souhaite une excellente journée.
Élève-toi
avec les enfants. Radio Vassivière. Une émission de Émilie, ma maman.